de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministère indonésien de la Santé enregistre dimanche une baisse des cas confirmés de COVID-19. Bakamla détient des opérations à la frontière indonésienne-malaisienne. L'Indonésie et le Sri Lanka s'accordent pour encourager les négociations sur le PTA. La COVID-19 frappe les chauffeurs, l'approvisionnement alimentaire de Hong Kong perturbe. Les îles Cook prêtent à connaître le premier cas de COVID. Les pays du Moyen-Orient demandent à leurs citoyens de quitter l'Ukraine. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud condamnent le lancement de missiles nord-coréens. Ça perturbe la stabilité. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Le ministère indonésien de la Santé a noté que les cas confirmés de COVID-19 dimanche étaient à 44 526, en baisse de 10 683 par rapport au samedi, à 55 209. Chef du Bureau de la Communication et des Services Publics, Widyawati, dans une déclaration écrite à Jakarta dimanche, transmettant « C'est la première fois que les cas de confirmation nationale baissent depuis que l'Indonésie a déclaré qu'elle était dominée par la propagation de la variante Omicron fin janvier 2022. Le gouvernement continue de renforcer les efforts de prévention pour minimiser la pire impact de la pandémie de COVID-19 tant d'un point de vue sanitaire que socio-économique, la prévention telle que le renforcement des tests, du suivi et du traitement continue d'être menée par le gouvernement pour empêcher l'expansion de la propagation de la variante Omicron du virus COVID-19 qui est connue pour avoir un taux de propagation plus rapide. De plus, des efforts ont également été faits pour préparer les établissements de services de santé, y compris l'entretien des établissements de santé. Le sommeil à l'hôpital reste optimal et est capable de soigner les patients dans le besoin. L'Agence de sécurité maritime Ubakamla de la République d'Indonésie a organisé dimanche une opération de sécurité et de sûreté maritime dans les eaux d'Ambalat, frontière indonésienne avec la Malaisie. Chef de la division indonésienne des relations publiques de Bakamla, le colonel Wisnu Paramandita, dans une déclaration écrite à Jakarta, dit l'opération impliquait tour à tour d'autres éléments de patrouille tels que le navire d'État UKN Bintang Laut 401, KN Sea Lion 402 et KN CAL 406. Le colonel Wisnu a dit « L'opération a été effectuée sur la base d'ordre du chef de l'Agence de sécurité nationale indonésienne, l'amiral Aan Kurnia, sous le nom d'opération Garda Nusantara 3 ou 22. » L'objectif de l'opération Garda Nusantara 3 ou 22 est de mener des opérations de sécurité et de sûreté en mer et de faire respecter la loi conformément à procédure et de fournir une assistance SAR dans les eaux d'Ambalat. le commandant du KN Ulat Laut 405, le lieutenant-colonel Umar Dhani a déclaré, par le biais de l'opération Gada Nusantara 3 ou 22, il est à espérer que les perturbations de la sécurité et de la sûreté de la mer Nambalat, à savoir la frontière Indonésie-Malaisie, peut être minimisée. L'ambassadrice indonésienne au Sri Lanka Dewi Gustina Tobing et le ministre sri-lankais du commerce Bandula Gunawardana ont convenu d'entamer immédiatement les négociations sur l'accord commercial préventiel ou PTA entre l'Indonésie et le Sri Lanka. La déclaration de l'ambassade d'Indonésie à Colombo, citée par Antara à Jakarta dimanche, a déclaré que l'accord avait été conclu lors d'une réunion entre les deux au bureau du ministre sri-lankais du commerce récemment. Les négociations de PTA sont considérées comme offrant de nombreux avantages pour accroître les relations de coopération économique et commerciale entre les deux pays. Avec le PTA, selon l'ambassadrice Dewi, on espère que davantage de produits indonésiens entreront sur le marché sri-lankais. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux besoins intérieurs de Sri Lanka, mais aussi de maximiser le potentiel de Sri Lanka en tant que centre d'activité commerciale et dans le cadre d'accords de libre-échange dans la région asiatique. Les autorités de Hong Kong ont déclaré dimanche que l'approvisionnement de la ville en légumes et volailles surgelées pourrait être temporairement perturbé après que plusieurs chauffeurs de véhicules transportant des marchandises en provenance de Chine continentale aient déjà été testés positifs pour COVID-19. Hong Kong importait 90% de sa nourriture ou la Chine continentale est la source la plus importante, en particulier pour les aliments frais. Les consommateurs ont connu des pénuries d'un certain nombre de produits importés de l'étranger, y compris de fruits de mer de qualité supérieure, en raison des restrictions de vol strictes. Les îles Cook, une petite nation du Pacifique Sud qui n'a pas encore connu la COVID-19 dans leur communauté, se préparent à leur première infection à coronavirus après la visite d'un touriste infecté. Le premier ministre Mark Brown a déclaré dimanche que le touriste néo-zélandais avait passé 8 jours dans la communauté des îles Cook et avait été testé positif à Omicron après son retour chez lui la semaine dernière. Selon Mark Brown, il est probable que la personne transmettait pendant qu'elle se trouve aux îles Cook. Les données officielles montrent que 99,6% des quelque 17 000 personnes à l'âge de 12 ans et plus ont été doublement vaccinées et 70% de celles qui se qualifient ont reçu une injection de rappel. Un certain nombre de pays du Moyen-Orient ont demandé à leurs citoyens de quitter l'Ukraine en raison des tensions à la frontière du pays avec la Russie. De plus, ils ont également demandé à leurs citoyens de ne pas se rendre en Ukraine. L'Arabie Saoudite a demandé à ses citoyens en Ukraine pour appeler l'ambassade locale afin de faciliter un départ rapide du pays. Rapporté dans l'Arabia dimanche, l'Arabie Saoudite demande également à ses citoyens de reporter leur voyage jusqu'à nouvel ordre. Autre pays du Moyen-Orient, le Koweït, exhorte également ses citoyens à partir et à reporter leur projet de se rendre en Ukraine, cité par Ashraf al-Assad. Les autres diplomates des États-Unis, Japon et Corée du Sud condamnés après une série de lancements de missiles balistiques par la Corée du Nord. Lors d'une réunion à Honolulu, États-Unis, secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eun-yoon et le ministre japonais des Affaires étrangères Hayashi Yashimasa ont condamné les 7 lancements de missiles comme déstabilisants. Dans sa déclaration rapportée par l'AFP dimanche, Pyongyang doit cesser ses activités illégales et engager le dialogue. Les 3 diplomates ont réaffirmé leur engagement en faveur de la dénucléarisation de l'ensemble de la péninsule coréenne et volonté de reprendre le pourparler avec Pyongyang, qui n'a pas répondu à une offre de l'administration du président américain Joe Biden l'année dernière. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission du commentaire d'aujourd'hui intitulée « Radio et confiance ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, hier, 13 février 2022, a été célébrée la 11e journée mondiale de la radio. La journée mondiale de la radio a été introduite le 3 novembre 2011 lors de la 36e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. La première commémoration de la journée de la radio a été proposée par l'Espagne le 20 septembre 2010. L'UNESCO a également mené en 2011 de vastes consultations avec diverses parties prenantes concernant la célébration de la journée mondiale de la radio. En conséquence, 91% soutiennent la journée mondiale de la radio. Le 13 février a été choisi comme date anniversaire car c'est à cette date, en 1946, que la radio ONU a été fondée. Sur son site web, l'UNESCO déclare que la radio continue d'être l'un des médias les plus fiables et les plus accessibles au monde. L'UNESCO déclare également que la radio est un moyen puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et c'est une plateforme ou une scène pour le discours démocratique. Au niveau mondial, la radio reste le média le plus consommé. Sa capacité unique à atteindre le public le plus large possible permet à la radio de façonner l'expérience de la diversité des gens. Pour qu'elle puisse se présenter comme une arène où toutes les voix peuvent être exprimées, représentées et entendues. D'autre part, les stations de radio doivent être en mesure de desservir diverses communautés, d'offrir une variété de programmes, de points de vue et de contenus, et de refléter la diversité des publics au sein de leurs organisations et opérations. Le thème de la journée de la radio de cette année est « Radio et confiance ». Le thème comporte trois sous-thèmes, à savoir le premier, confiance dans le journalisme radio, produire un contenu indépendant et de haute qualité. Deuxièmement, confiance et accessibilité, prenez soin du public ou des auditeurs. Troisièmement, la confiance et la survie des stations de radio, assurer la compétitivité, les trois sous-thèmes semblent appropriés pour voir la situation actuelle de la radio. Au milieu du développement des médias sociaux, d'Internet et des diverses plateformes d'information et de communication, la radio est appelée à conserver sa force en tant que média de confiance. Le nombre de fausses nouvelles ou de canulars sur diverses plateformes d'information et de communication fait que les gens ont toujours besoin des médias imprimés grand public, tels que les journaux ou les magazines et de l'électronique, comme la télévision et la radio, pour trouver des informations vraies et factuelles. Conformément à l'époque, les stations de radio d'aujourd'hui, y compris La Voix de l'Indonésie, Voice of Indonesia, continue d'essayer d'atteindre au public plus large via diverses plateformes, y compris la diffusion en direct, les sites web et les médias sociaux tels que Facebook, Twitter et autres. Ainsi, on peut dire que la radio reste le média ayant la plus grande portée. Bon, cher Jouitard, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你。 Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. Et nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 février 1945. Rébellion Peta Ablitar, Java Est. Le 14 février 1945, les défenseurs des forces de la patrie Peta Ablitar, sous la direction de Supriyadi, se sont rebellés contre les envahisseurs japonais. Le plan de rébellion a été déclenché parce que les jeunes commandants ont été touchés par la souffrance du peuple indonésien traité comme des esclaves par l'armée japonaise. La rébellion a été contrecarrée par l'armée japonaise. 78 officiers et soldats de Peta de Blitar ont finalement été arrêtés et jugés à Jakarta. Mais Supriyadi est disparu jusqu'à présent. Le 9 août 1975, Supriyadi a été officiellement déclaré comme héros national d'Indonésie. Nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 février 1946. Le drapeau indonésien rouge et blanc flottait pour la première fois à Manado, dans le nord de Sulawesi. Après la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie, le 17 août 1945, la majeure partie de l'Indonésie orientale était encore sous domination coloniale. Ainsi, à minuit, le 14 février 1946, les combattants du nord de Sulawesi, dirigés par les commandants Taulu et Wisan, assistés des commandants Franz Bismann et Freddy Lumanau, ont mené une attaque et arrêté tous les soldats et commandants des colonialistes hollandais de Manado, Tomohon, à Tonsea. Dans l'après-midi, le commandant de l'armée royale néerlandaise des Indes orientales, Kniel de Vries, a été contraint d'abandonner le drapeau indonésien rouge et blanc flottant pour la première fois dans le nord de Sulawesi. Chers auditeurs, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 février 2005. L'ancien premier ministre du Liban, Rafik Hariri, est assassiné. L'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri, a été tué dans l'explosion d'une bombe à l'ouest de la capitale Beyrouth le 14 février 2005. La tentative d'assassinat de Hariri a également tué 9 personnes et blessé 100 autres. Environ 300 kg d'explosifs ont explosé juste au moment où son cortège passait devant l'hôtel Saint-Georges à Beyrouth. Les meurtres surviennent au milieu des tensions politiques croissantes entre la Syrie, l'allié politique du Liban et l'opposition. Hariri a récemment démissionné de son poste de premier ministre du Liban en octobre 2004 et a rejoint l'opposition. Bon, chers auditeurs, C'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Berseri bila hati tiada rasa kebahagiaan, carilah kawan penyebabnya di dalam dirimu. Saat-saat silih berganti lembaran hidup, suka duka datang pergi irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri. Lembaran hidup,
suka duka datang pergi irama hidup.
Carilah kawan bahagia di dalam diri.
Première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie. Et pour le titre, l'Indonésie renforce sa collaboration avec la Banque mondiale pour renforcer l'économie. Le gouvernement indonésien renforce sa collaboration avec la Banque mondiale pour promouvoir une reprise économique mondiale plus forte. Le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto, a reçu une audience de la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Manuela Vivero, à Jakarta. Ils ont discuté des programmes prioritaires du ministère indonésien de coordination dans le domaine de l'économie pendant la pandémie de COVID-19, et du soutien de la Banque mondiale au programme de relance économique nationale. dans une déclaration officielle à Jakarta vendredi dernier, le 11 février, la Banque mondiale a déclaré que la coordination entre les décideurs en matière de santé et de finances, les institutions financières multilatérales et les institutions mondiales de santé doit être améliorée. À cette occasion, le ministre coordinateur Erlangga Hartarto a expliqué les derniers développements concernant la croissance économique de l'Indonésie et le programme du gouvernement pour la relance économique nationale. Le programme comprenait la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe de vente sur les produits de luxe supportés par le gouvernement pour plusieurs types de véhicules motorisés à quatre roues. En outre, il existe également un programme de crédit aux entreprises du peuple et un programme d'aide en espèces pour les vendeurs de roues, les étals et les pêcheurs. Le ministre Erlangga a également expliqué l'orientation du président Joko Widodo concernant la réalisation de l'objectif de 0% de pauvreté extrême en 2024 et l'accélération de la réduction de pauvreté en augmentant l'efficacité des programmes et le développement intégré des données. La Banque mondiale, qui dispose d'une unité spéciale pour la gestion de l'extrême pauvreté dans le monde, a promis d'aider le gouvernement indonésien à réaliser cette directive du président. Le ministre Erlangga a également révélé que le gouvernement continue d'essayer d'éliminer les obstacles et de réduire le coût des flux de marchandises dans le commerce international et intérieur, entre autres via l'écosystème logistique national NLE, à savoir une plateforme qui relie l'offre et la demande logistique pour accroître la collaboration et la synergie entre les ministères ou les agences. La Banque mondiale a déclaré qu'elle collaborera avec le ministère de coordination de l'économie et les ministères ou institutions concernées pour élaborer des études et des politiques visant à accélérer le processus logistique en Indonésie. La réunion a également abordé la question de la transition énergétique pour le commerce du carbone et un mécanisme de transition énergétique juste et abordable sans imposer une charge trop lourde aux personnes, à l'industrie et aux finances de l'État. Le ministre Erlangga a expliqué que le gouvernement indonésien a collaboré avec la Banque asiatique de développement, BAD, en lançant un mécanisme de transition énergétique de charbon vers les énergies renouvelables. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kencang bergema di darah tiap kali jumpa dirinya, bercampur semua rasa yang arah dan hatiku bertanya-tanya, apakah mungkin dia definisi bahagia? Dengannya ku bersedia habiskan usia. Selamat
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces auditeurs, les gens de l'Est de Java, en particulier la communauté Usin, du village de Macan Putih, la résidence de Banyuwangi, en fait, il existe un moyen unique de trouver un compagnon. Un homme célibataire, attiré par une certaine femme, doit venir directement chez la femme pour accomplir l'acte de flirter. Cette tradition s'appelle Gredoan, ce qui dans la langue locale signifie taquiner. La tradition Gredoan a lieu une fois par an, non seulement en tant qu'événement de jumelage, Gredoan est également organisé pour célébrer l'anniversaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette tradition commence le matin où la communauté organise d'abord une célébration à la mosquée. Ensuite, le soir, les filles aident généralement leurs parents à cuisiner dans la cuisine. À cette époque se déroule la tradition Gredoan. L'homme qui est attiré par une certaine fille viendra chez la fille. Il insérera un bâton dans l'interstice du mur de la maison qui est toujours en bambou. Puis l'homme a commencé à faire connaissance tout en séduisant la fille. Mais la conversation était limitée par un mur de bambou où la fille était à l'intérieur de la maison et l'homme à l'extérieur. Maintenant, les règles de la tradition Gredoan sont un peu différentes. Quand les bâtons ont été brisés, ils ne se produisent plus et bavardent contre un mur de bambou. Désormais, l'homme sera invité à entrer et discuter dans le salon, bien sûr accompagné des parents de la fille. Mais surtout lors de cette nuit traditionnelle, ils ont la liberté de discuter jusqu'à tard dans la nuit. Il n'est pas rare que les couples qui suivent cette tradition finissent par se marier. La tradition Gredoan était très vivante, de tout résident allant des enfants aux adultes des filles dans le village en présentant des vestiges d'attractions pour commémorer cette tradition. Certains ont joué des attractions avec des bâtons de feu, joué de la musique folklorique Hadra et des carnavals de poupées géantes. Parmi les différentes attractions, l'attraction bâton de feu est la plus attendue. L'attraction du bâton de feu utilise du bambou et de cordes qui sont brûlées aux extrémités. Dans cette attraction, les jeunes du village local démontrent leur habileté à jouer des bâtons de feu. En commençant par montrer la capacité de former des formations, des attractions majeures aux arts martiaux. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Je répète. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. En français, j'aime faire une promenade à la plage. Bonne étude. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. En français, j'aime faire une promenade à la plage. C'est une conversation entre Kevin et Mela, son collègue, quand ils planifient un week-end. Mela a raconté ses lieux touristiques préférés. Écoutons la conversation.
Mela, kamu suka berjalan-jalan kemana?
Aku suka berjalan-jalan ke pantai.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. En français, j'aime faire une promenade à la plage. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Aku suka. Aku suka
signifie j'aime. Berjalan-jalan ke pantai. Berjalan-jalan ke pantai signifie faire une promenade à la plage. Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Aku suka berjalan-jalan ke pantai signifie j'aime voyager à la plage. Minuman apa? Minuman apa signifie quelle boisson? Jus. Jus signifie le jus. Makanan apa? Makanan apa signifie quelle nourriture? Salad. Salad signifie la salade. Dans la conversation, vous écoutez la déclaration Aku suka berjalan-jalan ke pantai. Aku suka berjalan-jalan ke pantai signifie j'aime faire une promenade à la plage. En indonésien, le mot suka, je répète, suka signifie aimer et pour exprimer la préférence. Berjalan-jalan ke pantai. Berjalan-jalan ke pantai signifie faire une promenade à la plage est une chose que Mela aime. Pour exprimer la préférence, le mot suka est mis avant de montrer une chose ce qu'on aime, à savoir l'activité, quelqu'un, la nourriture ou toute autre chose. Par exemple, aku suka berjalan-jalan ke pantai. Aku suka berjalan-jalan ke pantai signifie j'aime faire une promenade à la plage. Les autres exemples pour exprimer la préférence ci-dessous. À un ami malade, vous pouvez dire Kamu suka minuman apa? Kamu suka minuman apa? Signifie quelle boisson aimes-tu? Aku suka jus. Aku suka jus signifie j'aime le jus. Kamu suka makanan apa? Kamu suka makanan apa? Signifie quelle nourriture aimes-tu? Aku suka salad. Aku suka salad signifie j'aime la salade. Avant de terminer à apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Mela, kamu suka berjalan-jalan kemana?
Aku suka berjalan-jalan ke pantai.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Diam di dalam rumah ini denganmu dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau utuh jiwa raga. Bila ini perlukan ada, tetap kita saling depan. Tak ada yang tahu hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini
lalukan ada,
oh, tetap kita
saling menjaga.
Hari depan
tak ada.
Sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson kroncong intitulée Bunga Teratai, chantée par Henny Puriandari. Chers auditeurs, cette chanson a été composée par Marjo Kahar. Raconte la beauté de la fleur de lotus, un type de fleur qui pousse à la surface des eaux calmes comme les étangs ou les marécages. Dans cette chanson est décrite chaque matin quand le soleil commence à briller, les fleurs de lotus se balancent, dansant dans l'eau claire. La beauté de la fleur de lotus peut réconforter un cœur triste. Bon, chers auditeurs, voici Henny Puriandari va chanter une chanson intitulée Bunga Teratai. Bonne écoute.
Sungguh semangat
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.